VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. En Guinée, l'organe législatif transitoire valide 3 ans de transition, l'ancien parti au pouvoir et l'ancienne opposition font bloc pour dire non. En RDC, nouvelle condamnation des assassins en 2010 de Floribert Chebeya, la voix des sans-voix. Le président américain Joe Biden organise un sommet mondial virtuel sur le Covid-19 alors que les États-Unis veulent tourner la page du Covid. La guerre en Ukraine, la dispute sur le gaz s'amplifie en Europe. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Guinée, l'organe législatif transitoire fixe à 3 ans la durée de la transition alors que la CEDEAO et la communauté internationale réclament un délai plus court. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
Le délai de 36 mois adopté hier mercredi en séance plénière par le Conseil national de transition est revu très légèrement à la baisse par rapport à l'annonce faite le 30 avril par le chef de la junte militaire, le colonel Mamadi Doumbia, qui avait opté pour une transition de 39 mois. Sur 81 membres, 73 ont voté le texte. Un membre était absent, 3 se sont abstenus et 4 ont quitté la salle en signe de protestation. Le rapporteur de la commission des lois de l'organe législatif Jean-Paul Katem Benouno a affirmé que 36 mois sont suffisants pour préparer le pays à un retour à l'ordre constitutionnel. Réunie mercredi à Conakry, une coalition formée du RPG, le parti de l'ex-président Condé et de formation de l'opposition sous le pouvoir de ce dernier, ont dénié au CNT la prérogative de fixer la durée de la transition. La CEDEAO, qui avait demandé une transition très courte, a suspendu la Guinée après le putsch et lui a imposé des sanctions à la suite du refus plusieurs fois réitéré de la junte de se conformer à ses exigences.
Toujours en Guinée, la justice a ouvert une information judiciaire contre l'ex-président Alpha Condé et plusieurs ex-responsables pour des présumés assassinats, actes de torture, enlèvements et viols. Cette information judiciaire vise, outre M. Condé, son dernier Premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, son ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, ainsi que plusieurs autres personnalités selon un communiqué du parquet de Dixin. Au Niger, des ONG ont déposé une plainte au parquet de Niamey après la révélation par la Cour des comptes de malversations dans des services publics atteignant 63 milliards de francs CFA, de manque à gagner pour l'État. Il est essentiel d'aller faire cette dénonciation au niveau du procureur pour que ce dossier ne puisse pas être enterré, a déclaré Ali Idrissa, responsable du Rotab, le réseau nigérien pour la transparence et l'analyse budgétaire. En RDC, 2 officiers de police ont été condamnés par un tribunal militaire pour l'assassinat en 2010 d'un des défenseurs des droits humains, Floribert Chebeya, et Fidel Bazamna, son chauffeur, Nathalie Barge.
Le colonel Christian Goy Kenga Kenga et le lieutenant Jacques Mugabu ont été respectivement condamnés à la peine de mort et à 12 ans de prison, indique dans un communiqué La Voix des Sans-Voix, organisation fondée par Floribert Chebeya. Le major Paul Mwilambwe, témoin central à charge des prévenus, a été acquitté. Le colonel Daniel Mukalei, qui a été condamné à 15 ans de prison en 2015, est toujours incarcéré à Kinshasa. Floribert Chebeya a été retrouvé mort en juin 2010, après avoir disparu la veille à l'issue d'un rendez-vous à l'inspection générale de la police avec le général John Numbi, qui était chef de la police. Le chauffeur de Chebeya, Fidel Bazana, qui l'accompagnait à ce rendez-vous, a disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. En mars 2021, le parquet militaire a conclu à l'implication de Numbi dans cette affaire. L'officier de police est toujours en fuite. La Voix des Sans-Voix plaide pour qu'un nouveau procès s'ouvre dans un bref délai avec la comparution du général Numbi et d'autres prévenus.
Par ailleurs, Nzanzu Muyisa Makassi, un rappeur congolais condamné en décembre à 2 ans de prison pour outrage au chef de l'État, a été acquitté en appel par un tribunal militaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Au Cameroun, 9 passagers et 2 membres de l'équipage ont péri dans un accident d'avion qui s'est écrasé dans une forêt du département de la Haute-Sanaga, dans le centre du pays. L'appareil de la Cameroon Oil Transportation Company avait décollé de Yaoundé pour rejoindre la station de pompage numéro 2 à Dompta, dans le nord-est du pays. Prote Mbiranya, le fugitif le plus recherché par la justice pour son rôle dans le génocide au Rwanda en 1994, est décédé en 2006, ont annoncé ce jeudi les procureurs de l'ONU qui menaient une enquête sur l'affaire. Le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux précise que Mbiranya est mort le 5 octobre 2006 à Harare, au Zimbabwe. Il était, depuis l'arrestation de Félicien Kabuga, le fugitif rwandais le plus recherché par la justice pour son implication présumée dans le génocide alors qu'il commandait la garde présidentielle. Au Nigeria, environ 18,5 millions d'enfants, dont une majorité de filles, n'ont pas accès à l'éducation. Un chiffre en forte hausse par rapport à 2021. C'est alarmé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'année dernière, l'UNICEF estimait à 10,5 millions le nombre d'enfants déscolarisés dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont franchi aujourd'hui le seuil du million de morts du Covid-19, a annoncé la Maison-Blanche. Mais à l'image de New York, mise à genoux en 2020, le pays veut tourner la page de la pandémie. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Nous devons rester vigilants face à cette pandémie et faire tout ce que nous pouvons afin de sauver le plus de vies possible, comme nous l'avons fait avec plus de tests, de vaccins et de traitements que jamais, a dit le président américain Joe Biden dans un communiqué alors qu'il préside jeudi un sommet virtuel sur la vaccination dans le monde. Les États-Unis enregistrent depuis un mois une hausse quotidienne du nombre de cas de sous-variant d'Omicron. Ces effets semblent toutefois moins graves sur une population complètement vaccinée à 66% et à plus de 90% pour les plus de 65 ans. Après plus de 2 ans de pandémie, les États-Unis entendent cependant bien tourner la page du Covid-19. Le pays a levé l'obligation de port du masque, désormais simplement conseillé en intérieur.
Ce sommet a débouché sur de nouveaux engagements financiers de plus de 3 milliards de dollars, a annoncé la Maison-Blanche, qui peine de son côté à financer sa propre politique de lutte contre la pandémie. Sur cette somme, 2 milliards de dollars iront à la réponse immédiate à la pandémie et 962 millions de dollars iront abonder un fonds de la Banque mondiale destiné à la prévention de futures pandémies, selon l'exécutif américain. Guerre en Ukraine, la dispute sur le gaz s'intensifie. L'Ukraine veut que l'Europe cesse de dépendre du gaz russe. Vladimir Poutine estime que les pays occidentaux souffrent le plus de leurs propres sanctions. Le point avec Michel Joseph.
Gazprom, le géant russe, a annoncé qu'il va cesser d'expédier du gaz vers l'Europe occidentale via la Pologne. Il ferme le robinet à plus de 30 entreprises énergétiques de l'Union européenne, des États-Unis et de Singapour, ce qui suscite des craintes quant à l'avenir de l'approvisionnement en gaz en Europe. Déjà, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a accusé la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme, mais avoue que la situation devient critique. L'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'Europe a déjà baissé de près d'un tiers. L'Ukraine a suspendu cette semaine les livraisons en raison de ce qu'elle appelle l'ingérence russe. L'Europe doit couper l'oxygène énergétique de la Russie et mettre un terme définitif à sa dépendance envers le gaz russe, a déclaré Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, lors d'une visite à Berlin. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les gouvernements occidentaux portent un coup beaucoup plus dur à leur économie et au bien-être de leurs propres citoyens, tout en insistant sur la forte hausse de l'inflation en Europe.
Plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage jeudi à l'une de leurs journalistes vedettes, Shirin Abu Akleh, tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Les États-Unis et de nombreux pays condamnent sa mort et réclament une enquête transparente. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est le Minute Éco avec Nathalie Barge.
L'Africa Finance Corporation a lancé à Abuja au Nigeria le troisième sommet sur les infrastructures en Afrique. Dans son discours d'ouverture, le président de l'institution panafricaine, Samaila Zubairu, a appelé à la recherche active de capitaux pour les projets, soulignant la nécessité de financer les innovations. Le Fonds africain de garantie pour les petites et moyennes entreprises a accordé une garantie de portefeuille de 2,5 milliards de francs CFA à la Société Générale au Burkina Faso pour l'entrepreneuriat féminin et l'économie verte. Le programme AFAWA vise à débloquer 3 milliards de dollars de prêts aux PME qui appartiennent à des femmes en Afrique. Selon l'agence de notation Fitch Dangote Industries Limited, de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, va mettre en place un programme obligataire local de 750 millions de dollars pour financer l'achèvement de son usine pétrochimique et sa raffinerie. Fitch Ratings lui a attribué une notation nationale à long terme de 2A avec une perspective stable.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
On connaîtra bientôt le futur sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Oui, ce sont nos confrères d'Afrique Foot qui affirment qu'à l'issue de l'appel à candidature lancé la semaine dernière suite à l'élection d'Idriss Diallo au poste de président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, 22 candidatures ont été reçues. Le site sportif cite le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou, qui précise que parmi tous les dossiers, trois finalistes ont été retenus pour succéder à Patrice Baumel. Deux des noms n'ont pas fuité à la demande des candidats car ils se trouvent actuellement sous contrat. On connaît en revanche l'identité du troisième, Jean-Louis Gassé. Âgé de 68 ans, l'ancien adjoint de Laurent Blanc n'a jamais caché, selon Foot Afrique, sa volonté de diriger un jour une sélection africaine malgré son absence d'expérience sur le continent. Afrique Foot croit savoir que le poste d'adjoint devrait quant à lui se jouer entre Swaliho Aïdara, qui a dirigé la sélection olympique, et l'ancien international Emers Faye, actuellement entraîneur de la réserve de Clermont Foot en France.
Lionel Messi est l'athlète le mieux payé au monde au cours de l'année écoulée.
Oui, selon le journal L'Équipe, avec 130 millions de revenus, Lionel Messi a été l'athlète le mieux payé au monde sur la dernière année écoulée. Selon le classement annuel de Forbes publié mercredi, il devance LeBron James et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a été l'athlète le mieux payé donc au monde au cours de l'année dernière, selon la liste annuelle donc de Forbes publiée mercredi. L'attaquant argentin du PSG devance le basketteur des Los Angeles Lakers, LeBron James, et son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, revenu à Manchester United l'an dernier.
En NBA, Milwaukee renverse Boston et entrevoit la finale de conférence.
Oui, Milwaukee, tracté par la force herculéenne de Giannis Antetokounmpo, 40 points, s'est imposé à l'arraché à Boston 110 à 107 pour entrevoir la finale de conférence Est ce mercredi en play-off NBA où Memphis a humilié Golden State 134 à 95 pour rester en vie à l'Ouest. Les Bucks, qui mènent désormais 3-2 dans cette série au Corbeau, sont revenus de loin dans cette cinquième rencontre encore intense dans le chaudron du TD Garden. Menés de 14 unités, ils s'en sont remis à Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane, qui les a portés à bout de bras. Au deuxième quart-temps, 15 des 19 points de l'équipe ont été marqués par Giannis, auteur d'un double pas dont la gestuelle bras tendu passant par-dessus le cercle a rappelé la folle action réussie par l'ex-idole des Sixers, Julius Erwin, il y a 42 ans, jour pour jour contre les Lakers en finale du championnat.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier l'augmentation des prix des hydrocarbures. Une augmentation de 100 francs CFA sur le litre de carburant. Le gouvernement pointe du doigt l'explosion des consommations frontalières, car le carburant burkinabé est le moins cher dans la sous-région. Les populations estiment que la vie est déjà chère et cette augmentation va encore peser dans leurs poches. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Les Burkinabés devront ajouter désormais 100 francs CFA sur chaque litre de carburant acheté. La décision a été rendue publique hier à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement dit n'avoir pas le choix que d'augmenter. Abdoulaye Tall, ministre du Commerce.
Nous sommes en moyenne, avant cette situation, en moyenne à 2 millions de litres jour. Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave les déficits parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et ça veut dire que chaque litre exporté frauduleusement ou par un camionneur qui a préféré faire le plein à Saint-Cancé, à Ouissa ou ailleurs avant de traverser la frontière, il y a une subvention de 400 par litre. On a le choix en tant que gouvernement de risquer la pénurie parce que la Sonabi n'arrivera pas à renouveler son stock de liquidité parce qu'elle l'achète plus cher pour revendre moins cher. Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir.
Dans les rues à Ouagadougou ce jeudi, les consommateurs ne cachent pas leur mécontentement. Trop c'est trop pour certains.
Bon, on ne peut que prendre acte, bien vrai que c'est pas facile, mais on ne peut que prendre acte, surtout que c'est une conjoncture internationale qui les oblige à le faire. Et je sais que c'est pas à leur gré également qu'ils l'ont fait.
C'est pas facile, déjà que les prix dans les premières nécessités ont déjà suivi une augmentation considérable. Si l'essence aussi augmente, on ne sait pas comment on va se débrouiller.
La situation du pays même, ça devrait être comme ça. Augmenter, c'est normal d'augmenter. Mais c'est trop, quoi, c'est trop. Ça nous arrange pas. De travailler, mettre les gens, non, c'est anormal. Hein. On n'est pas d'accord avec ça même.
Mon cher ami, ce n'est pas facile. Hein. Parce que regardez aujourd'hui, le prix des céréales partout, la vie est devenue tellement serrée. Il y a la crise de la sécurité, il y a la crise alimentaire, il y a tout.
Cette augmentation est inadmissible selon la Ligue des consommateurs contactée par VOA Afrique. Pour la Ligue, le gouvernement devrait annoncer des mesures d'accompagnement en subventionnant les prix des produits de grande consommation comme l'ont fait certains pays. Tout va augmenter, c'est le consommateur qui va payer, s'indigne la Ligue des consommateurs du Burkina. Et à ces rythmes, beaucoup finiront par reprendre le vélo ou simplement la marche à pied. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. La Guinée équatoriale est un petit pays pétrolier d'Afrique centrale qui importe presque tout de l'étranger. Ce pays, qui compte 1,4 million d'habitants, peine à diversifier son économie dépendante à 90% des hydrocarbures. Ses habitants subissent les effets de la guerre en Ukraine car ils font face à la pénurie de pain. Reportage de notre correspondant à Malabo, Samuel Obiang Mbana.
Malabo, la capitale, souffre depuis un mois d'une pénurie de pain qui est pourtant très consommée dans des milliers de foyers. À l'origine de cette situation, le manque de farine à cause de l'arrêt de l'importation du blé suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux pays avec qui le pouvoir de Malabo entretenait de bonnes relations. Pour éviter la disparition totale du pain, les boulangers ont alors pris certaines mesures. Mazem est un Libanais et responsable d'une boulangerie à Malabo.
Oui, la farine, ça manque dans les pays et le prix de farine est de plus en plus cher. Ça, c'est une vérité. Nous, par exemple, depuis qu'on a commencé à de nouveau les infos de la crise mondiale. Nous avons nos réserves, donc on ne vend pas la farine. On a arrêté la distribution parce qu'au niveau des boutiquiers, ils ont le problème qu'ils changent le prix du pain. Donc pour éviter le problème, donc on a parti vers faire une vente directe pour le client. Donc bon, le reste des boulangeries, ils ont des problèmes. Certaines boulangeries qui sont des petites boulangeries, donc leur politique c'était de diminuer leur poids.
Le pain étant une denrée de première nécessité et face à cette situation, les habitants de Malabo adoptent d'autres comportements dans leur ration quotidienne. Kwana Anna est mère de 4 enfants.
La situation du pain maintenant est fatale, car le pain pour mes francs CFA, soit 2 dollars, ne suffisent plus à mes enfants. Je préfère le riz maintenant que du pain, puisqu'il n'y a pas les possibilités pour acheter du pain maintenant.
La pénurie de pain a un impact considérable dans le quotidien de la population côte-guinéenne. Amadou est propriétaire d'un fast-food, a même vu ses recettes journalières chuter pour manque de pain.
Mon problème de pain avant, chaque jour, j'ai un pain de 5 000 francs. Bon, maintenant, comme il n'y a pas de pain, bon, les clients, ils mangent aussi les spaghettis. Ceux qui mangent les spaghettis, ils n'aiment pas manger sans pain. Bon, souvent, ceux qui veulent manger avec le plantain, j'enlève le plantain, je mets un peu de spaghetti à la place du pain. Ça nous crée des problèmes, parce que celui qui aime manger le spaghetti, il mange avec le pain. Quand il n'y a pas le pain, automatiquement, il ne veut pas manger ça.
Esther Concha, vendeuse de pain, a aussi perdu ses clients.
Soy una vendedora de pan desde 2006, pero la situación que estamos viviendo ahora de la venta del pan...
Je vends le pain depuis 2006, mais la situation actuelle du pain, je ne l'ai jamais vécue. Maintenant, on a réduit le poids du pain, ainsi que la quantité. Je recevais avant 1000 pains par jour. Maintenant, je reçois que 200 pains. La majorité de mes clients sont partis.
Guillermo Mba lui souhaite une révolution industrielle de chaque pays pour éviter ce genre de crise à l'avenir.
Nous devons disposer des industries pour fabriquer de la farine. Mais si nous continuons de dépendre d'autres États, et en cas de problème, nous serons toujours dans des situations comme celle-ci.
Depuis le début de cette crise du pain, les autorités côte-guinéennes ne se sont jamais prononcées pour trouver une alternative afin de résorber la crise. Il y a aussi pénurie d'autres produits comme les œufs et les prix de produits de première nécessité ne cessent d'augmenter avec tous ces effets dévastateurs sur le panier de la ménagère. Samuel Obiambana, Malabo, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique.
La haute cour militaire de la République démocratique du Congo a prononcé hier à Kinshasa un acquittement et 3 condamnations. Au terme du procès, on appelle de quelques-uns des policiers fugitifs accusés dans l'assassinat 12 ans plus tôt du défenseur des droits Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordonnateur du collectif des avocats de Floribert Chebeya, maître Richard Bondo.
Les appels dont le verdict d'hier concerne les 3 prévenus qui étaient en fuite. Kenga Kenga, celui qui avait supervisé le commando qui avait assassiné les 2 défenseurs des droits de l'homme. Mugabo, celui qui a matériellement assassiné les 2. Et puis celui qui était au dispositif de sécurité qui gérait les caméras dans les installations du quartier général de la police nationale congolaise. M. Mwilambwe, dont les témoignages ou dont les dépositions étaient très décisoires pour nous permettre d'arriver à la décision qui est tombée hier.
Quelle est donc votre réaction du fait qu'on ait condamné plutôt Ngoy Kenga Kenga
et
c'est lui qui était au-dessus de lui directement. On parle bien
le
du général.
Le chef du commando, c'est lui, celui qui a commandé les exécutions. C'était lui, Christian Ngoy Kenga Kenga, qui n'a même pas voulu comparaître devant la cour. Il a été condamné parce qu'il était représenté par son avocat. Devant la haute cour, il n'y a pas de condamnation par contumace. Il a été condamné à la peine capitale et puis destitué de la police.
Qu'en est-il alors du général John Numbi, qui était l'inspecteur général de la police, dont dépendait directement Christian Ngoy Kenga Kenga?
Oui, John Numbi, non. Vous voyez, nous avons 2 degrés de de juridiction. Ngoï Kenga Kenga et Mugabo, membres du commando qui a exécuté le double assassinat, sont des officiers inférieurs justiciables de la cour militaire au premier degré et quand ils forment appel, ils sont justiciables de la haute cour militaire. Mais cette dernière, la haute cour militaire, c'est le juge en premier et dernier ressort des généraux, dont le général Numbi, qui est en cavale. Dès qu'on l'aura attrapé, son dossier est déjà fixé devant la cour fixera les dates d'audience pour commencer l'histoire du dossier. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Je suis satisfait à ce stade de la procédure.
La VSV, l'organisation que Chebe a laissée, semble demander un nouveau procès pour que le général John Numbi, qui était le chef de Kenga Kenga, puisse comparaître. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les avocats?
Oui, mais nous sommes d'accord parce que ce dossier est déjà envoyé en fixation devant la haute cour militaire par l'auditeur général, qui est le ministère public ici en RDC. On attend seulement l'arrestation de John Numbi pour que le dossier démarre. C'est ce variant de procès que tout le monde a.
C'était Maître Richard Bondeau, coordonnateur du collectif des avocats de Floribert Chebeya.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Clap de fin à Marrakech des travaux de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Cette rencontre s'est tenue hier dans la ville rouge en présence de près de 80 pays et organisations internationales. Un temps fort de l'agenda diplomatique pour tenter d'éradiquer la menace terroriste à l'invitation de Rabat et de Washington. Le récit avec notre correspondant au Maroc, Robin Dussen.
C'est un Nasser Bourita souriant qui a accueilli un à un ses homologues de 38 pays. Le ministre marocain des Affaires étrangères s'est montré très avenant pour accueillir la 9e réunion de la coalition mondiale contre Daesh, un conclave pour éradiquer la menace terroriste. Le maître des lieux a pris la parole pour lancer les discussions.
The collusion against the sovereignty and stability of states and the convergence of financial, tactical.
La connivence entre stabilité et souveraineté des États, ainsi que la transformation des moyens financiers, tactiques et opérationnels, crée une alliance objective entre groupes terroristes et séparatistes. En effet, le séparatisme et le terrorisme sont souvent les deux faces d'une même pièce. Ceux qui financent, abritent, soutiennent et arment le séparatisme contribuent finalement à répandre le terrorisme ainsi qu'à compromettre la sécurité. Du territoire en paix. Faisons bien attention à encourager le séparatisme, c'est bien être complice du terrorisme.
Une allusion à peine voilée au front Polisario qui a repris les armes contre les forces marocaines au Sahara occidental après 30 ans de trêve. Mais Nasser Bourita a surtout voulu insister sur la menace terroriste en Afrique, sans le citer nommément. Abdouanan al-Sahraoui, émir du groupe État islamique au Grand Sahara, a d'abord grandi dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie avant de devenir à Gao, dans le nord malien, l'un des piliers du Moudjahou, le mouvement pour l'unicité de Dieu et le djihad en Afrique de l'Ouest. Après avoir décimé la région du Liptako, dite celle des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, son groupe a aussi revendiqué l'assassinat de 4 soldats américains à Tongo Tongo, dans l'ouest du Niger. Et concernant le terrorisme en Afrique, les chiffres sont éloquents. 35% des victimes d'attentats dans le monde l'ont été au Sahel, jusqu'à 48% en Afrique subsaharienne. L'objectif de cette réunion, avec la participation de l'OTAN et d'Interpol, la première sur le continent, c'est selon les autorités marocaines de poursuivre l'engagement et la coordination contre les exactions du groupe État islamique. C'est aussi l'avis des États-Unis. Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, coprésidente de cette rencontre, est venue remplacer Anthony Blinken, testé positif au
Covid-19. Nous sommes ici réunis avec un engagement partagé, celui d'infliger une défaite durable à l'État islamique en Irak et en Syrie, sur le continent africain et à travers le monde. Notre travail est passé de la libération des territoires conquis par Daesh en Irak et en Syrie à d'une part l'identification des régions du monde qui sont en train de devenir des terrains fertiles pour les groupes terroristes et d'autre part à s'attaquer aux problèmes à la source.
Autre moyen d'action pour Washington, l'investissement. Victoria Nuland a annoncé une aide de 119 millions de dollars à destination des pays d'Afrique subsaharienne pour améliorer la capacité des forces de l'ordre, des brigades civiles et des autorités judiciaires. Robin Dussène à Tanger pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.